Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Au début du dernier film de Michael Prazan, Goulag, apparaissent les plans sublimes d'un paysage glacial, enfoui sous la neige, image d'un pays perdu et comme oublié à l'autre bout du continent russe, la Kolyma, tout au bout d'un voyage qui plonge dans les coulisses les plus honteuses de la mémoire soviétique. Un peu plus d'un siècle après la révolution d'octobre, le documentariste est en effet parti sur les traces du système concentrationnaire en Sibérie. Il a suivi la route des ossements, tracée de 1600 km verglacés entre Yakoutsk et Magadan. Il a sillonné entre les vestiges d'un univers secret où il s'agissait de rééduquer les ennemis du peuple et de fabriquer un homme nouveau, et où les ZEK, acronyme qui désigne les forçats du goulag, sont devenus les esclaves d'une machine économique destinée à exploiter des territoires aussi gorgés de richesses qu'ils sont inhospitaliers. Près de 30 millions d'hommes et de femmes sont passés par ce continent. Bonjour Michael Prazan.
Bonjour.
Alors merci beaucoup de venir nous rendre visite aujourd'hui pour évoquer ce film sur l'histoire des goulags qui est soutenu par la FMS et qui sera diffusé sur Arte le 2 avril au soir. Alors je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent bien, hein, mais que vous êtes l'auteur de films aussi mémorables qu'Einsatzgruppen, Les Commandos de la Mort ou La Passeuse des Aubrais, deux exemples des nombreux retours sur l'histoire et la mémoire de la Shoah qui jalonne votre longue filmographie. Je rappelle que vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de la radicalité politique, sur du terrorisme. Et d'une certaine mesure, quand on voit votre filmographie, on ne s'étonne pas que vous ayez ressenti le besoin de faire aussi ce long voyage documentaire donc dans l'histoire des goulags. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter justement ce qui est à l'origine du film? Est-ce que c'était une manière de poursuivre un travail ou s'il y a une occasion précise qui s'est présentée qui vous a donné envie de faire ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres, parce que vous êtes allé jusqu'au bout de la route, hein, très très loin, à la frontière, enfin, sur la côte sibérienne, hein, jusqu'à Magadan. Est-ce que c'est la rencontre avec la jeune historienne Assia Kovrigina, qui est le personnage principal de votre film, qui est un peu le guide dans les pas duquel vous placez votre caméra, qui vous a lancé dans cette histoire?
Fondamentalement, oui. C'est ma rencontre avec Assia Kovrigina, qui est devenue une très bonne amie à moi, et qu'on s'est rencontrés à Kiev lors des commémorations et d'un colloque sur Babi Yar. Ça devait être en 2010, je crois. Et Assia est une personnalité que je trouve absolument attachante et fascinante, qui est à cheval sur plusieurs cultures. Elle est née en Sibérie parce que toute sa famille était en goulag, et notamment son grand-père, qui est un peu le fil rouge, en tout cas le prétexte, cette recherche des origines et cette recherche de revenir sur les traces du goulag qu'elle a initié. C'est un peu le fil rouge du film, et donc elle est présente à l'image, et c'est elle qui m'a raconté cette histoire-là, puisqu'elle est à la fois, c'est une histoire juive, et puis en même temps, c'est une histoire fondamentalement soviétique. Et c'est vrai que je connaissais assez mal, au fond, cette histoire, et elle m'y a amené, après des années de fréquentation, ça fait à peu près... avant qu'on se lance dans cette aventure, parce qu'elle est quand même aussi la co-auteure du film. Pendant 4 ans environ, elle m'a poussé en me disant « Voilà, tu dois t'emparer de cette histoire qui est l'autre versant, finalement, de la Shoah, plus méconnue, et qui a été très peu et très maltraitée. » Donc, voilà, elle a fini par me convaincre, et c'est vrai que... mon tropisme sur les radicalités politiques, sur les empires concentrationnaires, sur comment finalement les idéaux peuvent pousser à détruire des hommes, tout ça c'était des thématiques qui m'étaient familières, et cette perspective aussi de faire un film qui soit à la fois un grand film d'histoire en archive et aussi d'une certaine manière un film de découverte, cette forme hybride que pouvait prendre le film avec des tournages dans cette région absolument incroyable, invivable, glacial. On a tourné par moins 60 et en même temps qui déploie des paysages fantastiques, fabuleux.
C'est une beauté stupéfiante.
Voilà. Ouais. Alors c'était une épreuve de tournage, bien évidemment, tourner par moins 60, faire cette route de la Kolyma, qui est l'une des sans doute les plus dangereuses du monde. C'est une région qui cumule les records. C'est la région la plus vaste du plus grand pays du monde. C'est la région la moins peuplée du monde. Enfin, ça n'est qu'un cumul de records qui peut être effectivement un peu effrayant comme ça de prime abord. Et de fait, ça a été très difficile. Ça a été une épreuve.
On reviendra sur cette dimension du film qui est Vous l'avez rappelé, c'est un film d'histoire, mais c'est aussi un film de rencontre. Vous faites un voyage, c'est un road movie. Hein, on vous voit sur la route, on voit une voiture qui avance, on voit Assia Kovrigina qui marche. On reviendra sur cette dimension-là. Mais avant, je voudrais revenir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous dites « elle m'a convaincu que c'était l'autre versant de la Shoah », parce que ça ne va pas du tout de soi. C'est l'autre versant de la Shoah, l'histoire des goulags, c'est l'histoire des goulags. Il y a effectivement une histoire des régimes, du système concentrationnaire, une histoire de l'oppression totalitaire. Mais pourquoi l'autre versant de la Shoah ? Je voudrais que vous m'expliquiez, en fait, que vous me répondiez à cette question en m'expliquant une séquence du film qui est très importante, qui m'a beaucoup touché, notamment parce que j'y retrouve des éléments d'un film que vous aviez fait qui s'appelle Einsatzgruppen, où il y a des images de ces photographies prises du massacre de Liepaja, où on voit la famille Epstein se faire massacrer. Il y a une très très belle séquence de votre film Einsatzgruppen. Là, vous revenez sur ces images pour nous raconter que le père, qui n'est pas sur les photos, a été envoyé dans les goulags, et effectivement, il y a, on pourrait dire, dans ces images-là, comme un lien qui se fait entre votre film et entre les deux histoires. Et vous racontez à partir de là la répression qui touche spécifiquement les Juifs. Mais en quoi la répression anti-juive doit être pensée dans cette histoire des goulags, dans une histoire générale des goulags ?
Moi, ce que je trouve saisissant, c'est de comprendre, de le donner à comprendre à quel point la situation des Juifs pendant la guerre, au début de l'invasion allemande, Barbarossa, devient inextricable. D'un côté, c'est les Einsatzgruppen, et puis ensuite Auschwitz, les camps de la mort, et puis de l'autre, c'est le Goulag. Et beaucoup de Juifs vont se retrouver pris en étau entre ces deux systèmes de répression concentrationnaire qui détruit les individus. Et effectivement, le sort de la famille Epstein, cette famille qui a été intégralement liquidée sur la plage de Liepaja en décembre 1941, et ce père qui, lui, a été déporté en goulag à partir de la division de la Pologne, du pacte germano-soviétique, va mourir 5 mois après sa famille, sans savoir qu'ils ont été assassinés. Et à partir de là, effectivement, va se nouer une histoire qui est d'une certaine manière un trait d'union entre l'Occident et ce monde gigantesque et complexe, mal connu, qu'est le monde soviétique. Donc oui, c'est un moment charnière, et puis ça me donnait l'occasion aussi de parler de cette histoire de la répression anti-juive qui va immédiatement suivre la Shoah, menée par Staline à l'époque. Tout le monde connaît au moins la formule du complot des blouses blanches, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Et au milieu de tout ça, il y avait le CAJ, le comité antifasciste juif, qui va être d'ailleurs intégralement liquidé après la guerre, et qui va donner lieu à ce livre dont au moins les auditeurs connaissent peut-être le nom, c'est-à-dire le livre noir de Ehrenburg et Vassili Grossman, qui sera interdit, pilonné, et puis ensuite...
Grossman, l'auteur évidemment de Vie et Destin, qui est l'histoire de ce trait d'union dont vous parliez tout à l'heure, entre les deux histoires, on pourrait dire.
Exactement. Et là, effectivement, on trouve, alors évidemment, des très grandes différences, mais aussi un certain nombre de similitudes, à la fois dans les modes opératoires, dans une forme d'antisémitisme d'État, même si c'est pas le même. Voilà, il y a des nuances, mais les deux, il va y avoir une sorte de passation de relais, hein, puisque les choses s'enchaînent immédiatement après la guerre. Et ce que je voulais aussi dans ce film, et je crois que Assia en était d'accord, c'était de faire une succession. Alors, il y a une histoire générale du goulag, qui est presque une épure ou une ébauche, et puis au milieu de cette histoire générale, il y a un certain nombre de micro-histoires. Et cette micro-histoire, disons, des juifs pris en étau entre la Shoah et le goulag, c'était quelque chose qui m'intéressait, et qui pour moi donnait raison à son titre, ou du moins le titre que je lui ai donné, c'est Goulag au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs figures du goulag, et au fond, le goulag n'a cessé de muter. En gros, dans mon film, il y a deux époques, qui d'ailleurs ne sont pas des époques chronologiques. Il y a une première partie du film qui s'intéresse au goulag comme une des formes d'une répression plus large, mais comme un instrument de la répression. Et donc, dans cette histoire, le goulag est un élément de la répression, mais il y en a d'autres qui sont évidemment les fusillades, la Grande Terreur, et puis cette répression particulière qui s'exprime à partir des années 46-47, des répressions anti-juives menées par l'Union soviétique stalinienne. Et puis la deuxième partie du film, qui est celle en situation, celle où on se rend effectivement dans l'Oymyakon et la Kolyma, c'est-à-dire cette région glaciale grande comme quatre fois la France. Je voulais raconter cette autre histoire du goulag, encore plus méconnue, qui est une histoire coloniale. C'est en réalité de ça qu'il s'agit. Il y avait des territoires inhabités parce qu'inhabitables, regorgeant de matières premières, et il fallait une main-d'œuvre pour les exploiter. Et là, il y a une forme de cynisme d'État qui va s'exprimer au point où le NKVD fabrique des listes parce qu'on a besoin de main-d'œuvre dans ces régions-là. Alors, il n'y a pas que la Kolyma, c'est la région à laquelle je me suis intéressé. Mais du coup, comme on a besoin de main-d'œuvre, eh bien, on va fabriquer des dossiers sur n'importe qui. C'est aussi tout le côté terrorisant de cette époque et de ce système, c'est-à-dire que n'importe qui, qu'on soit communiste, pas communiste, du jour au lendemain, on peut frapper à votre porte et puis vous embarquez dans un train et vous vous retrouvez à faire comme Varlam Chalamov, 17 ans de goulag dans cet endroit, avec évidemment la garantie d'y laisser votre peau. Et c'est comme la Shoah, je veux dire, ceux qui ont survécu, et Varlam Chalamov, ce grand écrivain, en fait partie, c'est une anomalie.
Oui, vous parlez des multiplicités de formes que prennent le goulag. Effectivement, on passe d'une logique de répression politique à une logique d'exploitation économique d'un territoire. Mais moi, il y a quelque chose, je ne le savais pas à ce point-là. Pour moi, effectivement, les goulags, c'était loin à l'est, en Sibérie. Et votre première partie du film, vous êtes à Moscou, vous montrez qu'il y a eu des camps de concentration dans Moscou, à la périphérie de
Moscou.
C'est
très méconnu.
Des zones, et c'était assez mal connu. Vous employez d'ailleurs, je me suis posé la question le terme camp de concentration pour parler d'un, pour l'instant, je vais dire un lieu qui est un monastère où il y avait des prisonniers. Alors, et là sur l'expression camp de concentration, j'ai envie de vous poser une question parce que effectivement, on parle des mondes concentrationnaires soviétiques opposés confrontés au monde du concentrationnaire nazi, évidemment. Mais il y a une saturation d'images concernant le lager allemand, et effectivement, il y a un déficit d'images et de représentations concernant, on pourrait dire, ce qu'était la vie concentrationnaire dans les goulags. Est-ce que le même mot vous paraît pouvoir cadrer les deux réalités? Parce que moi, à la porte de ce monastère, je me dis, mais comment on peut appeler cet endroit camp de concentration?
Parce que c'est réellement d'un camp de concentration qu'il s'agit. Le monastère ou les monastères concernés étaient souvent divisés en deux. Et donc il y avait une partie qui restait l'activité du monastère traditionnel et puis une autre partie qui était véritablement un camp avec des barbelés, avec des baraquements, avec des gardes qui les surveillaient, qui éventuellement les liquidaient s'il y avait des révoltes. Donc non, on avait toutes les caractéristiques d'un camp de concentration. La question géographique est une question évidemment fondamentale. Cette question effectivement que j'essaie de montrer, c'est une réalité très méconnu et en réalité qui a été mise à jour par l'historiographie ces dernières années. C'était totalement ignoré jusqu'à présent. Les premiers camps de concentration, les premiers camps du goulag, non seulement ne sont pas à la périphérie des villes comme on peut le croire et comme c'est une réalité qui va suivre ensuite, mais se trouvent au cœur même de la ville, quoi, et même au centre-ville. On est dans ces premiers camps de concentration à un jet de pierre du Kremlin. Enfin, c'est vraiment... Et les zecs sont visibles. Enfin, les moscovites les voient. Ils les voient trimer dehors, il les voit faire les grands travaux de Staline dans la capitale. Donc c'est une réalité qui s'entremêle avec la réalité quotidienne des soviétiques. C'est la raison aussi pour laquelle, si vous voulez, alors c'est une mémoire qui a mis du temps à émerger en Russie et on peut comprendre pourquoi, mais d'un autre côté c'est une mémoire qui est inévitable parce qu'elle a touché tellement de gens. Il n'y a pas un russe, il n'y a pas un soviétique entre guillemets qui ne soit pas concerné par cette réalité. Et il était impossible, au fond, de cantonner cette mémoire-là dans le tabou ou dans les recoins les plus obscurs de la mémoire russe. Donc elle a fini de toute façon par émerger. Et je crois que la grande malignité ou la grande intelligence du pouvoir russe aujourd'hui, c'est non pas d'avoir essayé de la réprimer, mais de l'avoir accompagnée, d'une certaine manière corsetée.
Vous dites mémoire qui a mis du temps à émerger. Et effectivement, votre film aussi interroge l'évolution de la mémoire des goulags dans la Russie post-soviétique, hein, pas seulement dans la Russie poutinienne, mais dans la Russie post-soviétique, c'est-à-dire depuis 20 ans maintenant. On a le sentiment que ça se joue sur plusieurs tableaux. D'abord, il y a une mémoire officielle nationale qui s'est mise en place, on pourra y revenir. À côté, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup ému. C'est quelque chose comme une mémoire privée à destination du public, quelque chose comme ça. Ces musées de poche qui longent la route des ossements, c'est extrêmement émouvant de voir ces vieilles dames, souvent, qui dans deux pièces ou un trois pièces font leur petit musée.
Et au milieu de nulle part.
C'est
invraisemblable.
Que 10 personnes s'arrêtent peut-être par mois ou par an dans ces endroits-là, dont vous vous rappelez qu'ils sont évidemment pas du tout aidés par le gouvernement, mais qui sont des initiatives privées. Mais là, il faut quand même s'interroger sur la question de la mémoire officielle, parce qu'à un moment donné, vous interviewez une jeune historienne du mouvement Mémorial, je crois.
Oui, machin.
Et qui montre bien qu'il y a un rapport très ambivalent, clivé du régime politique actuel de Poutine. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut l'utiliser, cette mémoire-là, mais en même temps, on ne l'utilise pas pour les raisons pour lesquelles elle, la jeune historienne, veut aussi la raviver, c'est-à-dire lutter en faveur des droits de l'homme, pour la démocratie, etc. Donc, il y a quelque chose de très, très ambivalent dans cette mémoire. Vous dites mémoire qui émerge.
Ça résume assez la Russie d'aujourd'hui, qui est complexe, ambivalente, pleine de contradictions. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, cette mémoire-là est un torrent qui était inarrêtable. Et je crois que la grande intelligence de Poutine, c'est de l'avoir intégré au roman national russe. Et à partir de là, c'est une mémoire qui aujourd'hui se poursuit avec des gens qui, moi aussi, m'ont beaucoup ému. C'est beaucoup des trentenaires. Je pense à ce jeune directeur du musée de Moscou, qui est quelqu'un qui a 35 ans, qui est un peu hipster, enfin, qui n'est pas du tout dans la langue de bois, qui est né ou qui a grandi après la chute de l'Union soviétique, et lui qui a découvert cette histoire-là d'une certaine manière sur le tard, parce qu'il le dit, ça n'était pas enseigné à l'école, et il est d'une absolue sincérité, c'est pas du tout un apparatchik, c'est pas quelqu'un dont la parole est pilotée en sous-main par le pouvoir, non, il y a aujourd'hui une espèce d'expression comme ça, de toute une jeunesse qui découvre cette histoire traumatique, qui sait très bien qu'elle est fondamentale et qu'elle a généré des traumatismes et en même temps du culturel. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire. C'est que les gens qui sont envoyés dans les goulags, c'est les plus grands musiciens du pays, c'est les plus grands historiens, c'est les plus grands poètes, c'est les plus grands écrivains. Et tout ça va générer une forme de sous-culture qui va vivre souterrainement pendant des décennies et qui aujourd'hui revient au goût du jour d'une certaine manière. Il y a toute une génération qui s'empare des chansons, des textes, des poésies qui ont été écrites sous le goulag et qui sont pour certains des véritables chefs-d'œuvre.
Un des musées que vous visitez à un moment donné s'appelle le musée des écrivains du goulag, ce qui, effectivement, moi je ne m'attendais pas à ce qu'un tel musée puisse exister.
Alors ce musée est confiné dans une pièce de l'école de Tom Thor, qui est certainement le village le plus enclavé de cette région-là et le plus inaccessible. Et il y a aussi là-dedans à la fois quelque chose de très frappant et de très poétique sur ces endroits totalement inaccessibles, mais qui poursuivent comme ça une espèce d'exercice de la mémoire intellectuelle dans les endroits les plus reculés. Il y a quelque chose de très russe là-dedans.
C'est un road movie, c'est un film de voyage. Vous prenez la route, alors j'imagine que vous plongez dans la géographie profonde vraiment du territoire. Alors c'est une forme qui laisse beaucoup de place, j'imagine, aux rencontres, aux choses totalement inattendues. Comment ça s'organise dans un... Alors qu'il s'agit quand même de raconter une histoire objective avec des archives où il ne faut pas perdre le fil. Et pourtant, là, vous tombez au bout du chemin.
J'ai toujours eu cette intuition en tant que documentariste que la géographie était intrinsèquement liée à l'histoire et qu'elle devait nous informer, nous raconter aussi ce qui s'était passé dans ces endroits-là. C'était déjà le cas avec Enza Drupen. C'est vraiment en me rendant sur le lieu que je pense que le film a noué et a créé sa profondeur. Et je n'ambitionnais pas de faire la même chose sur ce film sur le goulag, mais en tout cas, il me semblait absolument inévitable que d'aller sur les lieux pour comprendre ce que les gens avaient vécu, et puis aussi pour rendre compte à la fois de la beauté de ces univers et en même temps de la fragilité de la vie lorsqu'elle se retrouve enserrée dans ces univers. Donc oui, ça a été passionnant. On a sillonné cette région grande comme comme je le disais tout à l'heure, quatre fois la France, ce qui est un véritable désert de glace. Et puis on a vu, voilà, au fil des journées, de cette traversée longue, les paysages changer, les visages aussi changer, parce que en réalité, jusqu'avant Magadan, on appelle ça la Colima, mais c'est pas la Colima, c'est la région qui s'appelle l'Oymyakon. Et là, on a des gens qui sont en fait des évêques sédentarisés, c'est-à-dire ces tribus locales qui sont des tribus avec leur propre religion, leur propre code. C'est des sociétés matriarcales qui vivent dehors, sous de simples tentes, et ils élèvent des rennes. Et puis, ces évêques sédentarisés sont devenus les Yakouts. Alors, eux ont été soviétisés, mais les évêques, eux, qui sont restés à l'état de nature, si on veut, ont été absolument imperméables à la soviétisation. Ils étaient de temps en temps utilisés par Dalstroy, c'est-à-dire par la compagnie qui exploitait la main-d'œuvre des évêques, et en même temps, ils restaient à côté ou en dehors. Donc, on avait ces Asiatiques, hein, ils ressemblent un peu à des Mongols, ils sont extrêmement grands, extrêmement costauds. C'est pas du tout l'image qu'on se fait des Asiatiques d'une manière générale, mais enfin, ils ont des physionomies asiatiques. Et puis plus on se rapprochait de Magadan et plus les physionomies devenaient russes, puisqu'il faut bien comprendre que Magadan est une ville qui a été créée par et pour les Zèques. Et donc en fait le substrat, l'origine même de la population d'une ville comme Magadan, qui est juste en face du Japon, c'est une ville composée essentiellement à l'origine d'anciens esclaves du Goulag, qui étaient assignés à résidence une fois qu'ils étaient libérés.
Aujourd'hui, qui vit là? Ce sont ceux qui sont nés là, des familles de Zèques? Quelle activité? Parce que c'est quand même
aujourd'hui, les familles de Zèques sont minoritaires. Alors, la ville perd chaque année des centaines, voire des milliers d'habitants, parce que bon, ça reste quand même un endroit invivable. Tellement à l'écart du reste du monde et de ce qu'on appelle le continent, c'est-à-dire la Russie centrale.
Qui se mettent en place.
Oui, il faut bien comprendre aussi que cette région-là, bon, déjà, elle est très difficilement accessible en hiver, mais elle est totalement inaccessible en été, parce qu'il y a la crue des fleuves et parce que la Sibérie devient une île. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus du tout y accéder, ni même y circuler. Et donc, c'est vraiment une région extrêmement enclavée, très, très difficile pour les gens qui y vivent, et ils n'ont qu'une envie, c'est d'en partir. Alors, pourquoi aujourd'hui, il y a de moins en moins de familles de Zèques qui y résident? Parce que dans les années 90, faut vous souvenir que la Russie a vécu une crise économique sans précédent, traumatisante pour les gens qui l'ont traversée. Et lorsqu'on acceptait de se rendre dans ces régions-là, en tant que fonctionnaire, par exemple, on était payé trois fois plus que si on restait à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Donc ça a fait venir dans les années 90 toute une nouvelle population de gens qui tout simplement voulaient être mieux payés qu'ils ne pouvaient l'être et vivre un peu mieux qu'en Russie centrale. Mais la crise étant résolue, aujourd'hui il y a une lente et régulière fuite de ces populations qui retournent vers le continent.
Il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais quand même vous poser encore une ou deux questions rapidement. J'ai une question sur les archives. Il y a beaucoup d'images d'archives, des images de reportages, peut-être de fiction par moment aussi, j'ai l'impression, en tout cas des films de propagande.
Il y a un film de fiction.
Justement, comment le pouvoir soviétique a documenté ce monde de Goulag? Comment ces images d'archives, vous les avez trouvées? Je m'en souviens d'une image d'archives incroyable, qui est un reportage où on voit Gorky a visité les îles Solovki en 1929, voilà. On va pas rentrer dans l'histoire des îles Solovki, les auditeurs verront le film, c'est un moment absolument fondamental dans l'histoire des Goulags. Comment vous avez travaillé avec les archives? Elles sont nombreuses, elles ont été difficiles à trouver?
Bah, elles sont là où elles sont, c'est-à-dire en Russie. À partir du moment où on veut exploiter des images d'archives russes, c'est la croix et la bannière. C'est très compliqué, parce que déjà c'est très long pour les obtenir. Pour qu'on nous les envoie, il faut aller sur place. Donc c'est compliqué de travailler avec la Russie sur la question des archives, bien qu'il y ait eu des progrès, je trouve, ces dernières années en termes de classification, de lisibilité. Maintenant, les images d'archives, quand on s'intéresse à ces périodes-là, que ce soit côté soviétique ou côté nazi, on est toujours confronté au même problème, c'est des images de propagande. Donc ça n'est pas la réalité. C'est toujours la confusion que font les gens. Les gens pensent que l'archive, c'est la réalité. Non, l'archive, ça n'est en réalité, en tout cas sur cette période-là, jamais la réalité. Et il y a effectivement l'exploitation dans un moment très particulier du film, qui est une reconstitution plus qu'une fiction en réalité, tournée dans ces années-là, tournée dans ces endroits-là. Mais enfin, c'est une reconstitution du goulag, tournée par les Japonais, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de Japonais, parce que c'était les anciens pays de l'Axe, etc. Donc il y a eu des camps qui étaient réservés aux Japonais, comme il y avait des camps pour les Polonais, patati patata. Et cette image de fiction, pour moi, elle est beaucoup plus vraie.
Vous faites allusion au travelling le long des pieds.
Exactement.
Ouais, parce que je me suis demandé d'où venait cette image.
Pourquoi elle est plus vraie que les autres ? C'est une question importante et très intéressante quand on s'intéresse à l'image d'archives. Parce que cette image, elle a été faite sur les lieux mêmes et tous les gens, les figurants qui sont dans cette image-là, sont des anciens zecs. Et donc ils reconstituent eux leur réalité, qui est beaucoup plus la réalité que l'image de propagande qui va filmer des forçats du goulag, mais qui vont être grimés, où on va les sélectionner parce que c'est les mieux nourris, parce qu'il faut être souriant
sur les
images.
On les voit sourire à l'image.
Et bien sûr, tout ça c'est de la mise en scène. Ouais. Donc c'est le paradoxe qu'on a. Une image de fiction, une image de reconstitution, pour moi, elle contient plus de réalité qu'une image censée être vraie, prise sur le moment dans l'endroit où ça convient, mais qui est totalement trafiquée et mise en scène. Donc c'est ça aussi la question à laquelle on est confronté quand on manipule ce genre d'image en permanence. Et je me souviens de Luba Jurgensen, qui est la traductrice de Varlam Shalamov, qui a assisté à la première projection que j'ai faite de ce film au Festival de Pessac, et qui me disait « Mais comment est-ce qu'on fait avec des images de propagande pour montrer la réalité ?» Eh bien, on casse l'image de propagande. On la remonte différemment. On a un commentaire ou une situation ou une exposition qui permet de déminer le discours.
On la fait apparaître comme étant de propagande, précisément. Hein.
Exactement. Mmh. Et on essaie de casser le discours de propagande qu'elle contient. Ça vaut pour les images soviétiques comme ça vaut pour les images nazies.
Alors, vous avez cité la traductrice de Varlam Shalamov. C'est effectivement, on sent que c'est le poète, l'écrivain qui vous a accompagné pendant ce voyage, beaucoup plus que Soljenitsyne que vous évoquez, évidemment. Mais on sent que votre cœur va plus du côté des récits de la Kolyma. Je laisse à l'auditeur le...
Mais aussi parce que j'étais dans la région où il a passé 17 ans, ce qui n'était pas le cas de Soljenitsyne.
Mais c'est pas néanmoins le même type de littérature...
Je préfère Shalamov à Soljenitsyne.
Voilà, non, je voulais juste dire ça et inviter donc les auditeurs à découvrir votre film. Il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. On n'a fait qu'évoquer quelques-uns de ces aspects, mais c'était absolument passionnant de vous écouter, Michael Prazan. Alors, je rappelle que Goulag, donc au pluriel, sera diffusé sur Arte le 2 avril. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.